Vous écoutez RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchon.
19h19 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la conseillère communication Nathalie Yanetta. Bonsoir.
Salut Marco, bonsoir à tous.
Avec le journaliste Jean-Louis Burga, bonsoir.
Bonsoir.
Le directeur de la rédaction du nouveau magazine littéraire qui chronique également RTL, Nicolas Domenac.
Bonsoir.
Et notre chroniqueur éco, bonsoir Christian Melanteau.
Bonsoir à tous.
Édouard Philippe sort donc le bâton après les violences sur les Champs-Élysées pour pallier au dysfonctionnement. L'exécutif, vous l'avez entendu, promet l'interdiction de manifester dans certains quartiers, en cas d'éléments ultra, le remplacement du préfet de police de Paris, frappé au portefeuille également des manifestations, puis une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre, donc avec un commandement plus autonome. Pour la première fois, la polémique sur les LBD a aussi affaibli les policiers, dit le Premier ministre. Convaincu, on débriefe ce qui s'est passé samedi, on se projette sur ce qui devrait se passer samedi prochain. Sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret, bonsoir.
Bonsoir, beaucoup soupirent déjà, comme le député Éric Diard, un fusible de plus qui saute. Olive doute qu'il y ait moins de violence dans les rues en remplaçant le préfet par un autre. Vous préférez pas juste répondre aux demandes des gens, demande-t-il. Pour l'État aussi, remplacer un serviteur de l'État pour ne pas prendre de responsabilité politique, c'est de la vieille politique. Mais non, répond Tita, ça veut dire que contrairement au 10 décembre, le président va plus rien lâcher sous la contrainte. Et c'est une très bonne nouvelle. Mouais, Castaner s'en sort bien quand même, hésite pas. Mais Diane fait tout de même remarquer qu'Édouard Philippe a fait sauter le dernier fusible avant le ministre de l'Intérieur, lui-même dernier fusible avant le Premier ministre. Quant aux nouveaux outils de maintien de l'ordre, Bastien grince qu'on était à deux doigts des fusils à seringues hypodermiques utilisés pour les soins aux éléphants dans les parcs naturels. En revanche, saisir la justice contre les leaders pousse au crime, ça c'est pas trop tôt, applaudit Yasmine. Adieu Drouet, Nicole et les autres, ricane Olive. Les manifs interdites sur les champs, Chris y voit une invitation à aller casser dans d'autres quartiers, voire d'autres villes. C'est quand même le meilleur service qu'on puisse rendre aux gilets jaunes, soupire Cyril. Retour à la case départ, mais quand ils forceront l'interdiction, il se passera quoi, s'inquiète Arthur. Espérons que ça n'enrage pas encore plus les casseurs, craint Christine. Et Bruno Gassiot de conclure. Il est bon, Édouard Philippe, pour juguler une crise politique et sociale profonde, il suffit de l'interdire, c'est pas con. À samedi, conclut-il.
Nicolas Domenac, oui. Les mesures à la hauteur du chaos, entre guillemets, de samedi?
Écoutez,
il y a un point d'interrogation.
En tout cas, d'abord, il faut voir quelles sont les mesures implicites qu'il faut expliciter. Un, il n'y aura plus de sortie en boîte pour le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est clair. Deux, il n'y aura plus.
Il garde son poste quand même. On peut le souligner à cette occasion-là, parce qu'il garde son poste, c'était pas forcément gagné.
Deux, il n'y aura plus de vacances au ski pour le président. C'était bon pour Giscard d'Estaing quand on allait se balader dans les cimes, mais c'est pour le moins malvenu que d'aller skier dans des périodes de tension et même en dehors et même si on met un casque, ce qui vaut mieux. Trois, ce qui est clair aussi, c'est qu'un préfet qui fait mal son boulot, il faut le virer et tout de suite sans attendre, parce qu'en fait, ça fait des semaines et des semaines que nous, on nous disait, les politiques de gauche et de droite, qui maintenant protestent contre ce lien sans limogeage, qu'il ne faisait mal son travail. Je veux dire, donc il fallait le dégager d'emblée.
Mais il faisait mal son travail ou il avait des mauvaises consignes politiques qui lui permettaient de bien faire son travail.
C'était toute la chaîne de commandement de la préfecture de police dont on nous disait qu'elle dysfonctionnait. Simplement, on ajoutait, il faut attendre au fond que le calme revienne pour pouvoir s'en séparer sans faire de vagues. Donc, ça démontre une nouvelle fois qu'il faut que c'était une erreur. J'ajouterais qu'il serait bon qu'on se souvienne, pour les présidents à venir, qu'il est toujours précieux d'avoir à côté de soi des hommes qui connaissent quelque chose à la police, ce qui était le cas de tous les présidents précédents, quasiment, enfin même si François Hollande, c'était pas si évident que ça, mais il avait Manuel Valls qui lui-même avait Alain Bauer, mais tous les autres présidents avaient leurs spécialistes des flics. Enfin, il est bon, alors là, il est bon que les choses soient claires. Quand une manif n'est pas autorisée, c'est qu'elle est interdite. Je veux dire, jusque-là, on était dans une ambiguïté complètement dingue. Bon, mais comme je ne veux pas monopoliser la parole, j'ajouterai quand même pour terminer qu'il y a quand même des données sociales qu'on évacue et qui ne veut dire que les forces de l'ordre ne pourront pas pallier, ne pourront pas répondre à des urgences sociales. Moi, je serais les maires des grandes villes qui ont été particulièrement marquées, que ce soit Bordeaux, Toulouse, Paris, j'irais présenter une partie de la facture au MEDEF. Parce que depuis des années qu'à ce micro, on dit qu'on ulcère le tissu social.
Là, c'est un autre sujet, là.
Non, c'est pas un autre sujet. C'est le maintien de l'ordre, il dépend de ça aussi, de l'ordre social, du bien commun. Je veux dire, il faut savoir autour de quoi on se rassemble. Je veux dire, moi, je suis pour qu'il y ait une fermeté.
Attendez les résultats du grand débat, mais.
Attendez. Je veux dire, on attend depuis tellement longtemps.
Passez la facture à Ménanteau, il connaît bien les mecs du MEDEF.
Je connais le MEDEF, je connais l'opposition.
Oui, vous inquiétez
aussi.
Pas, je ne vais pas vous dire que vous êtes le chroniqueur des riches. Je dis que vous connaissez bien le MEDEF.
C'est intéressant que Nicolas mette le MEDEF sur la table. Non, mais Nicolas, attendez une seconde.
Attendez d'en prendre une, Nicolas.
Voilà. Non, mais vous remarquerez une chose. le MEDEF est tout près des Champs-Élysées. Il n'y a pas un gilet jaune qui est allé casser sa vitrine.
Ah, non, mais on ne sait pas où c'est le MEDEF. Voilà.
Ah, attendez, ils arrivent à trouver n'importe. Oh, bah, vous plaisantez ou quoi?
Non, mais c'est pas. Voilà, c'est moins frappant que le Fouquet.
Les gens du MEDEF, on entend plutôt
deuxième chose,
des petites et moyennes entreprises.
Il
n'y
a pas de protestation sur les entreprises. On n'a pas vu de mouvement anti-entreprise lors de...
Non, excusez-moi, mais je ne veux pas me tromper de débat ce soir.
D'accord.
Le débat,
non,
c'est sur les mesures sécuritaires. J'ai bien compris où arriver, Nicolas.
D'accord.
Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur les mesures sécuritaires.
Pour l'instant, ça n'a pas été le sujet des gens qui étaient dans la rue.
Non. Maintenant, enfin, ceux qui étaient dans la rue, d'après le ministre de l'Intérieur, c'était des gens qui n'avaient pas de revendication, à part celle de casser.
Ouais.
Ce qu'a dit d'ailleurs tout à l'heure le président de la République, vous savez qu'il reçoit 70 intellectuels à l'Élysée. Il a dit que la seule motivation des gens qui étaient là dans la rue ce week-end était de casser.
Ils avaient prévenu, par ailleurs.
Qu'ils allaient casser, oui, mais un certain nombre d'entre eux. Mais un certain nombre d'entre eux, là, il est globaliste, c'est ça que je veux dire. Il n'y avait pas d'autres revendications, dit-il, que ceux de casser. Donc, les 10 000 personnes qui étaient dans la rue, selon lui, sont des casseurs. Ou en tout cas, des gens qui avaient ces velléités.
Oui, enfin, alors, juste sur les événements de ce week-end, simplement, on fait tout un foin du départ du préfet de police. Mais moi, je trouve d'abord, qu'il est justifié. Je suis d'accord avec Nicolas, il aurait dû être viré il y a très longtemps. Mais en France, on ne vire pas les hauts fonctionnaires. Il faut attendre le calme, il faut masquer tout ça et habiller la poupée. Et ça met surtout en lumière le millefeuille policier français. Parce que quand on écoute les opérateurs de police sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vous disent? On avait des collègues à 150 mètres, ils n'avaient pas d'instruction pour nous rejoindre, on n'arrivait pas à se parler, personne ne sait qui fait quoi.
Ça va changer, vous l'avez entendu.
Ça va enfin changer. Donc il est quand même dommageable qu'on ait attendu 4 mois pour mettre un petit peu d'ordre dans cette chaîne de commandement.
J'ai l'impression d'entendre Claude Guéant, il était là tout à l'heure, il disait la même chose.
Ça va changer, ça va,
très bien,
il
s'y connaît un peu, Guéant. Oui.
Ça va changer doucement, c'est une organisation effectivement extrêmement complexe dans la décision et le poste de commandement.
Enfin, intellectuellement déjà, on voit le schéma.
Oui, mais c'est pas dit que ça change d'ici samedi. C'est mon optimisme et peut-être à long terme, mais à très court terme, ça sera compliqué.
Enfin, le problème est sur la table, c'est déjà quelque chose.
Il l'était depuis 4 mois.
Oui, mais il n'a pas été résolu.
Ce problème-là, dès le deuxième samedi, les violences ont été spectaculaires, radicales, sur l'ensemble du territoire, dans des centres-villes qui ont été profondément attaqués. Oui. Le vrai problème, et je rejoins un peu la fin du discours de Nicolas, c'est qu'ils ne peuvent pas répondre autrement que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Hein, c'est évident, il y a un appel à la fermeté. À un moment donné, on fait sauter un fusible, on interdit des manifestations.
Aussi, hein.
On dit qu'on va réparer les dysfonctionnements. Le problème, c'est que là, on est face à une haine sociale.
Ouais.
Pas une colère sociale, une haine sociale, et que la réponse sécuritaire, on le sait, c'est jamais la bonne. Et c'est le piège dans lequel est ce gouvernement, c'est que malheureusement, il ne peut pas répondre autre chose, tout en sachant que c'est pas la bonne réponse.
Vous partagez, Jean-Louis Burga, parce qu'en même temps, on va voir les sondages qui vont arriver, mais forcément, il va y avoir des sondages sur la réponse sécuritaire, et à mon avis, ça va être un plébiscite.
On ne peut pas répondre autre chose, bien sûr.
D'abord, il y a d'abord une petite parenthèse, il y a deux choses qui sont difficiles à entendre. D'une part, dire que Macron n'était pas là pendant le week-end et que voilà, il aurait dû être aux commandes de la police. Ça, faut pas dire des choses comme ça. Et puis, non, c'est vraiment.
Mon observation,
c'est de dire que effectivement, Macron paye peut-être aujourd'hui ce qu'il a voulu, ce qu'il a cherché, c'est-à-dire d'être le seul capable de décider. Mais franchement, que le président de la République soit dans les rues de Paris ou soit sur une pente de ski à la Mongie pendant ces manifestations, je pense que ça n'a pas grosse importance. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que on peut parler de toutes les revendications sociales qu'on veut aujourd'hui, mais c'est pas ça qu'aller expliquer aux gens qui habitent les Champs-Élysées qu'on a le droit de casser chez eux et de faire brûler, de mettre des familles en danger pour des problèmes sociaux. Non.
Ça, qui a dit ça à personne?
Bon, si, c'est un peu, ça a été un peu votre discours tout à l'heure.
Pas du tout, vous n'avez rien compris.
Alors vous allez débattre après la pub.
Il va falloir qu'il s'ouvre les oreilles. Parce que
il va écouter la pub, et puis peut-être que vous êtes mal exprimé, j'en sais rien. En tout cas, ça va chauffer après la pub. Ça, c'est du teasing.
On refait le monde dans RTL Soir.
avec Marc-Olivier Vogiel.
Voilà la pub passée, vous vouliez débattre. Donc, le sang, c'est ça qu'on avait promis.
Moi, Nicolas je m'éloigne un tout petit peu.
Nicolas Demenac.
Alors, c'est incroyable d'entendre des trucs comme ça. Moi, le consentement à la violence m'est totalement insupportable. Le discours selon lequel il faut être violent pour être entendu mais intolérable. Hein, et ceux qui appellent à la sédition doivent être poursuivis. Ça, pour moi, c'est d'une clarté absolue.
Mais attendez,
je termine. Je veux dire, me dire d'un autre côté que le président de la Montagne, c'était très bien, c'était si bien qu'il a décidé de revenir.
Il faut discuter sérieusement.
J'en ai pour 30 secondes. Simplement, je dit qu'il faut être vraiment clair. Le président de la République, lui-même, quand il parlait des terroristes islamistes, disait il faut comprendre. Il faut comprendre. Je veux dire, effectivement, il faut comprendre. Ils ne sont pas allés casser n'importe quoi non plus. Je veux dire, c'est clair. Il y a eu
vous êtes d'accord avec la casse des kiosques, des choses comme ça? Vous dites que c'est un signal pour nous, pour les journalistes, par exemple.
Vous ne comprenez rien à rien. Je dis exactement l'inverse. Simplement que tous les symboles du capitalisme auxquels ils s'attaquent, les kiosques, c'est une attaque à la liberté de la presse qui est intolérable. Je veux dire.
Bon, voilà. Okay,
essayez d'entendre un peu.
Les unes après les autres, vous acceptez finalement. La revendication centrale, c'est qu'on ne peut pas y répondre. Donc, fermeté versus quoi?
Il y a la fermeté qui est indispensable, et ça, enfin, on va vers un peu de clarté, encore que ce ne soit pas totalement clair sur est-ce qu'on va aller, les policiers peuvent aller au contact et jusqu'où. Ça reste assez ambigu. Mais une fois qu'on a dit ça, et au fond, il me tient le même discours que Manuel Valls au président de la République, quand le président de la République faut comprendre les terroristes islamistes. Moi, je dis, il faut comprendre aussi les terroristes sociaux, c'est tout. Je veux dire, essayer d'analyser et de pas, et veux dire, d'avoir des réponses qui sont diversifiées.
Non, mais je comprends ce que veut dire Jean-Luc Burgas, est-ce qu'il y a des réponses, est-ce que ces gens-là, pour ceux qui sont dans la rue encore aujourd'hui et qui cassent, finalement, sont perméables à la moindre réponse qu'on pourrait leur apporter.
C'est exactement ça. C'est la question que je me pose depuis des semaines et des semaines à ce qui se passe dans les rues de
pour
Paris.
Pour ceux qui sont là, hein, pour ceux qui sont encore dans la rue aujourd'hui, vraiment pas les gros des gens qui sont descendus depuis 18 semaines.
Quelle est la réponse? Ce que je voulais dire en toute petite chose tout de même, je crois qu'il est vraiment difficile de donner des leçons de maintien de l'ordre. C'est un boulot effrayant, faire la guerre dans les rues des grandes villes en se disant qu'il ne faut pas qu'il y ait de blessés ni qu'il y ait de choses graves. Voilà, ça, c'est ce que je voulais dire sur le discours d'Edouard Philippe qui essaie. Mais ce qui m'inquiète, et je terminerai par ça, sur la technique du maintien de l'ordre, c'est qu'aujourd'hui, une fois de plus, le gouvernement dit qu'il ne comprend pas et qu'il s'est trompé. Ça fait 4 mois que ça dure. Ça, c'est une vraie question.
On a fini sur ce sujet. Un autre dans un instant. La rencontre entre le cardinal Barbarin et le pape François.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauché.
On refait le monde ce soir avec Nathalie Yanetta, Christian Menanteau, Jean-Louis Burga et Nicolas Demenac. Une demi-heure d'audience privée et un avenir en suspens. L'archevêque de Lyon, Philippe Barbarin, donc, a été reçu ce matin par le pape François pour présenter sa démission. Le primat des Gaules a été condamné, je vous le rappelle, à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des abus sexuels sur des scouts lyonnais par le père Préna. Il a fait appel. Pour le moment, le pape n'a pas rendu sa décision. Mais quoi qu'il arrive, Mgr Barbarin restera cardinal. Alors, est-ce que déjà le pape doit accepter cette démission sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret?
C'est très suivi par les croyants comme par les non-croyants, mais il y a peu d'infos. Une seule photo du cardinal Barbarin au Vatican. Le pape va-t-il enfin faire preuve de courage, lâcher l'hebdo? Un cas délicat pour le Vatican, admet Jacopo, un journaliste italien qui dit « Accepter sa démission reviendrait à accepter que la carrière d'un évêque soit décidée par la justice civile. » Bien sûr que le pape va refuser sa démission, c'est gros comme le Vatican, assure Marcel. Une lettre aurait suffi, c'est quoi ce voyage de faux martyrs, soupir encore Coury. Gabriel est catholique, mais regrette que cela tombe le jour où le procureur fait appel de la condamnation du cardinal, d'une décision donnant raison aux victimes, et l'avocat qui espère que son client revienne sur sa décision de démissionner, pourtant prise avant le verdict. Quelle image, regrette-t-il. C'est le procureur, pas l'accusé, qui fait appel, hein, souligne Spleen. Christian Terrasse, fondateur de la revue chrétienne Goliath, admet que Barbarin est devenu inaudible, dit-il. Il s'est énormément discrédité, il est temps qu'on le délivre de sa charge épiscopale, ou comme grâce sac. Barbarin n'a qu'à traverser la rue, il retrouvera du boulot. Nous gardons un excellent souvenir de toi en tant que vicaire de la paroisse Saint-François d'Adenville de Saint-Maur, écrit Gipani. Nous saluons ta courageuse décision de demander ta démission au Saint-Père, mais notre Église doit avoir un langage clair concernant les actes commis, dit-il. À mon avis, il n'y a pas d'autre choix, conclut Gerbet. La justice des hommes est passée, Barbarin doit s'y soumettre comme tous les citoyens.
La justice des hommes n'est pas encore passée, hein, puisqu'il y a un appel. Donc, Nathalie, Yanetta.
C'est bien le sujet du pape François, c'est qu'il n'a pas 36 solutions, il en a 3. Soit il accepte cette démission, et c'est donc donner l'impression de condamner en quelque sorte le cardinal Barbarin alors que la justice des hommes, entre guillemets, est encore en marche. Soit il refuse ses démissions, compte tenu des différentes affaires qui frappent l'Église catholique depuis des années, je doute qu'il aille sur ce terrain-là. Soit, et c'est la solution de synthèse en quelque sorte,
vous avez trop travaillé avec François Hollande.
Et oui, parfois il en reste un tout petit peu. Eh bien, c'est de nommer un intérimaire, entre guillemets. On laisse le cardinal Barbarin sans aucun pouvoir, mais à son poste, et ce sera peut-être le seul moyen, jusqu'au jugement en tout cas de l'appel, de sortir de cette nasse. Alors, ouais, sur le fait qu'il n'y ait qu'une photo, il n'y a jamais de communiqué lorsqu'il y a une audience au pape, et il y a même rarement des photos, donc c'est presque une première.
Eh ben, dans les 3 solutions, aucune n'est bonne pour l'Église catholique. Et je crois que si le pape François s'y référait, à mon avis, il ferait une faute. Il y a un précédent, c'est un archevêque, l'archevêque de Washington, qui a été évidemment... qui avait étouffé lui aussi des scandales d'agression sexuelle.
On se souvient, ouais.
Et qui a été démis de son magistère. Donc je crois que le pape aurait tout intérêt vraiment à... prendre une décision exemplaire. Le cardinal Barbarin est allé le voir, il est allé le voir en considération et en lui disant « c'est toi qui dois trancher ce dossier, pas la justice des hommes, il fait appel chez son avocat, tout ça, c'est assez minable ». Il est allé, comme homme d'église, aller demander au Saint-Père, vas-y, tranche, fais quelque chose. Eh bien, je crois que le Saint-Père devrait trancher et devrait démettre et accepter cette démission du cardinal Barbarin.
Démission même de cardinal, ça veut dire que le renvoyer au rang de laïc, ça serait possible, ça, Nicolas Demey ?
Non, il peut rester homme d'église et aller dans un séminaire.
Oui, très bien, mais comme vous les attendez une sanction ferme.
Mais non, mais
laïc, ça serait.
J'ai pas parlé.
Non, mais c'est une question que je pose. C'est pas,
je moi, j'ai pas la réponse, c'est le Saint-Père.
Non, mais est-ce que vous le voudriez ? C'est ça ma question.
Moi, je pense que il peut retourner aller dans d'accord. un séminaire et revenir et réfléchir et prier sur probablement ce qui est quand même une faute, mais ça serait pas une mauvaise solution.
Nicolas. Bah oui, il est le représentant de Dieu sur terre, si j'ose dire, et le Christ a pris ses péchés, les péchés des hommes sur lui, et qu'il prenne ceux de tout le corps épiscopal qui a fauté avant lui, plus les siennes, me paraîtrait sain. Moi, ça fait, si j'ose dire, ça fait des mois et des mois que je me tue à répéter qu'il devrait démissionner pour l'intérêt même de sa bien charge sûr, et de sûr. L'Église qui a perdu tant de crédit. Alors, c'est pas Monseigneur Barbarin qui a vidé les Églises. Il y a une crise de la spiritualité, il y a une crise du christianisme qui est beaucoup plus profonde. Mais effectivement, c'est pas en le gardant des personnalités comme Monseigneur Barbarin ni le nonce apostolique qui à Paris est sujet de quatre plaintes, contre lui, qui désignerait d'ailleurs, si c'était le cas, le successeur de Barbarin.
On en a parlé la semaine dernière.
Sauf
que vous savez que le parquet a demandé la levée de l'immunité,
absolument,
hein, ce qui est quand même une première.
Oui. C'est ça, mais c'est vrai, je crois, comme Nathalie Yanetta, que le pape va sans doute adopter une position mitoyenne, c'est-à-dire nommer un administrateur, parce qu'il ne peut pas obéir à la justice des hommes, et enfin, adopter la même sanction que pour ces cardinaux australiens, cardinaux américains, qui, eux, avaient directement été coupable d'agression sexuelle envers des mineurs.
Les décisions rapides et brutales dans l'Église sont difficiles à prendre. L'Église avance, bouge lentement. Mais je crois que le scandale est tel aujourd'hui que c'est un mot qu'on ne peut pas prononcer par rapport à l'Église, mais il y a besoin d'une révolution dans l'Église. Il y a besoin de quelque chose qui soit... D'abord un énorme coup de balai par rapport à toutes les personnes qui sont concernées par ces affaires. Et puis ensuite, effectivement, un discours du pape ou quelque chose qui permette de comprendre que tout le monde a compris, quoi.
Mais il y a eu un discours du pape où il parlait de pédophilie quand même manifestement.
Est-ce que suffisamment explicite qui était,
on peut pas dire que la clarté ait été la ligne directrice de ce discours.
Si, c'était assez clair dans le discours, mais maintenant, du coup, il faut les actes. Et là, il a l'occasion de faire un acte fort, le pape François. Il va prendre du temps, parce que c'est toujours comme ça, on prend du temps. Est-ce qu'il a le choix ? La réponse est non, mais il faudrait surtout, comme le dit Jean-Louis Burga, qu'au-delà de ces scandales et de ce ménage nécessaire, il y ait un Vatican III une bonne fois pour toutes, sur les comportements, l'ordination des prêtres, l'ordination des femmes, le mariage, le célibat. Il faut tout mettre sur la table. Mais c'est beaucoup demandé à cette institution de 2000 ans qui s'auto-protège, qui vit feutrée dans les palais retranchés d'un quartier merveilleux de Rome depuis des siècles.
Oui, bien sûr, mais qui perd en intensité, qui perd
et qui désespère.
Et qui peut-être désespère ses fidèles par ailleurs. Oui,
mais n'attendez pas du mariage des prêtres quand même, ce que je souhaite d'ailleurs, parce que je pense que ça serait beaucoup plus... c'est que c'est vraiment nécessaire. N'attendons pas non plus de miracles. Je pense que ce qui est en cause très souvent, c'est la charge symbolique du père, justement, celui qu'on appelle mon père. Je dirais que ça le met en situation de tous les abus de pouvoir, et que ça, tous les fidèles et toute l'Église catholique doivent y réfléchir et reviser ça.
On l'a vu, pardon Jean-Louis, dans un documentaire édifiant sur Arte, sur les religieuses ces vices sexuels que subissaient ces femmes. C'est épouvantable. Je crois que là, effectivement, ils n'ont plus le choix, mais ça ne va pas être évident.
C'est pour ça que Jean-Louis nous disait on ne peut pas se précipiter. Il ne s'agit pas de se précipiter, mais ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui.
Ça, c'est sûr. Allez, un autre sujet dans un instant. Agnès Buzyn pour la retraite à 65 ans. On en dit un mot.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
Et la confidence d'Agnès Buzyn hier au grand jury RTL Le Figaro LCI, la ministre des Solidarités et de la Santé s'est prononcée, elle l'a dit à la fin de l'émission, à titre personnel, en faveur de l'allongement de la durée du travail, l'âge de 65 ans pour partir à la retraite, pour être sur la table des négociations avec les partenaires sociaux. Le président de la République avait pourtant pris, lors de la campagne, l'engagement de ne pas toucher à l'âge de départ à la retraite. Alors finalement, a-t-elle eu du courage, Agnès Buzyn, le courage de dire ce que beaucoup pensent tout bas,
C'est-à-dire que comme elle n'est pas encore affinée politiquement, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une personnalité de la société civile, elle pose sur la table des dossiers dont elle a la charge par ailleurs, mais dont elle a bien compris que l'équation était d'une très très grande complexité. Parce que quel est le choix qu'on lui propose à Mme Buzyn ? Est-ce qu'elle arrive à maintenir le niveau des pensions ? Et auquel cas il va falloir reculer l'âge de la retraite, ou est-ce qu'on dégrade le niveau actuel des pensions, ce qui pose un problème, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, et auquel cas on demande aux Français de travailler un peu plus longtemps. Il faut juste voir une petite chose, un retraité qui a plus de 65 ans aujourd'hui dans notre pays perçoit un revenu qui est 110% supérieur à celui du revenu moyen des Français. Donc nos retraités ne sont globalement, bien sûr il y a toujours les exceptions, les petites retraites etc.
Mais ouais, 110%, ça veut dire...
Vous avez une moyenne de 100, un retraité est à
110. Oui, d'accord. Non, c'est pas deux fois...
Qu'il percevait deux fois. D'accord, non, mais il est à 110% d'une moyenne qui est à 100.
Ça veut dire si que quand la moyenne est 100, quand c'est 100, c'est 110. D'accord.
Voilà. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, on a eu un système qui était plutôt bien foutu, plutôt généreux, extrêmement protecteur.
Mais vous l'avez entendu, elle est médecin, elle voit l'allongement de la durée de la vie, et c'est sur cette base-là.
Et la baisse de la démographie.
Sur cette base-là qu'elle réagit. Oui. Donc on pourrait aussi dire que c'est tapé au coin du bon sens.
Non.
Ah
bon.
Et voilà.
Non, parce que justement, depuis 5 ans, il y a stagnation de l'espérance de vie.
Non, ça augmente.
Attendez, ça dépend.
On ne peut pas dire stagnation.
Il faut que j'aille m'autoriser à terminer ma phrase.
Elle monte
sous son contrôle.
Pardon, mais sous mon contrôle, elle monte.
Impossible. Elle monte, je savais bien, j'ai essayé.
Elle augmente moins vite qu'elle
ça
n'a augmenté.
Moins vite.
Non, pour les femmes, ça régresse, excusez-moi.
Parce que nous devenons comme vous, messieurs.
Parce qu'elle fume et elle boit.
Attendez, mais exactement, 85
ans. Vie de débauche.
Absolument. 85,3 ans. Non, ça veut dire que ce qui était le bon sens ne l'est plus forcément pour deux raisons. Un, la démographie, c'est quand même déterminant. maintenant pour la retraite. Je veux dire, pourquoi fait-on moins d'enfants actuellement que précédemment? Donc ça, il faudrait réfléchir avant de faire des projections sur la retraite. Deux, effectivement, ça veut dire quoi cette stagnation? Je veux dire, est-ce que c'est juste un contre-mouvement, je dirais, un accident de l'histoire, ou bien est-ce que ça va modifier tous nos paramètres? C'est pour ça que moi, je me lance pas dans ce débat les yeux fermés comme ça.
Oui, mais enfin, c'est, disons que l'allongement de l'âge de départ à la retraite aurait pu être fait depuis longtemps aussi. On peut voir ça aussi. On aurait pu voir
alors,
ça aussi. Voilà, donc peut-être que ça
fait.
Se justifie moins aujourd'hui avec vos chiffres, voilà. Mais ça aurait dû justifier depuis longtemps.
Non, non, mes chiffres sont les chiffres.
Les chiffres de Nicolas sont quelques chiffres dans une équation qui est quand même un peu plus complexe que simplement une relative stagnation de la durée de vie des femmes.
Oui, mais le paradoxe, c'est qu'effectivement, démographiquement, les baby-boomers, que sont mes parents, et que j'aime et que j'embrasse, évidemment, eux, ils étaient extrêmement nombreux, et c'est à eux qu'aurait dû incomber ce passage et ce prolongement, parce qu'en plus, ils tombaient encore dans une période où l'espérance de vie
ne cessait de croître.
Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'espérance de vie, elle va se stagner à un moment donné. Je ne sais pas si c'est à souhaiter, d'ailleurs, que nous soyons tous centenaires. Je ne le souhaite à personne, en tout cas pas à moi. Et une nouvelle génération démographiquement extrêmement puissante, celle de nos enfants, qui aujourd'hui ont 20 ans, c'est là l'autre baby-boom des années 2000, va arriver sur le marché du travail et va donc réinverser la tendance. La génération sacrifiée, c'est la nôtre. Ceux qui ont entre 40 et 55 ans, qui ont été assez peu nombreux, nos parents n'ont pas fait beaucoup d'enfants, eux étaient très très nombreux, et par ailleurs, leurs parents à eux vivaient très peu de temps, malheureusement, après la retraite, alors que les nôtres, Dieu merci, ont une très bonne santé et peuvent aller très loin. C'est ça l'énorme paradoxe. C'est que, comme souvent en France, on va faire la réforme trop tard.
Quand on parle de l'âge de la retraite, les généralisations sont souvent difficiles. La pénibilité du travail a beaucoup changé. Alors c'est vrai que si vous allez voir les gens qu'on appelait autrefois les manœuvres balais, bien entendu qu'ils ont envie de prendre leur retraite le plus tôt possible.
Ben,
mais
ça se comprend.
L'évolution du type de travail, même chez les constructeurs automobiles, on en parlait tout à l'heure, ont changé et les gens ne sont pas cassés obligatoirement à 65 ans. Et en tant que seul retraité autour de cette table, je voudrais vous dire que prendre sa retraite, c'est pas toujours un moment génial. Même en dehors des professions intellectuelles. Il y a un système de vie dans le travail qui tout d'un coup disparaît au moment où vous prenez la retraite. Donc je pense qu'il faut en parler avec beaucoup de...
Je voulais juste, comme il reste deux minutes, mais dire, voilà, juste maintenant, politiquement...
Un chiffre.
je me range derrière les mots, Nicolas. Je ne veux pas être envoyé par celui qui ne laisse pas parler. Mais juste débriefer politiquement la sortie d'Agnès Buzyn,
Et ce week-end-là, là, il y a eu une espèce de cascade de communication, là, ce week-end. On peut le qualifier d'assez malheureux parce qu'on est quand même hyper sympa et que c'est pas si simple d'être au pouvoir.
C'est
ce qu'on mettait au crédit d'Emmanuel Macron, de dire les choses même quand c'était pas politiquement correct.
Même Jean-Paul Delevoye, qui est chargé de faire la retraite, il a dit, alors non, en fait, on va pas faire comme ça.
Jean-Paul Delevoye louvoie beaucoup.
C'est peut-être pour ça qu'il est en place.
Sur
ces sujets-là,
c'est
parce qu'il faut louvoyer. C'est pas forcément un défaut, ce que je veux dire. Parce que peut-être qu'avec tous ces paramètres, il faut louvoyer pour arriver au résultat.
D'accord. Mais c'est justement, on voit pas où est l'objectif pour l'instant, parce qu'il a un petit peu évolué. Quand je dis un petit peu, c'est un euphémisme, entre le moment où il est arrivé au Haut Commissariat et aujourd'hui. On ne sait pas trop ce qui se passe.
Allez, merci à tous les quatre d'avoir refait le monde sur RTL. Dans un instant, les prochaines infos.
Vous êtes un formidable retraité.
ça me fait plaisir.
Ah, voyez, c'est elle qui vous l'a dit.
C'était le mot de la fin.
Voilà, c'est mieux que ce soit elle qui vous dise le mot de la fin que moi. Merci Nathalie. Dans un instant, le flash de 20h avec Quentin Vinet. Et ensuite, c'est vous, Jacques Pradel, pour l'heure du crime. Bonsoir, Jacques.
Mais oui, bonsoir, Marc-Olivier.
Au sommaire de l'émission ce soir.
Eh bien, ce soir, nous revenons sur l'affaire des disparus de l'autoroute A6. Une impressionnante série de meurtres de jeunes femmes localisées dans un rayon de moins de 200 km le long de l'A6. 12 meurtres, au moins, depuis 1984. Seulement 3 affaires résolues. L'une des plus anciennes, celle de Sylvie Aubert, vient de se voir prononcer un non-lieu pour la famille. C'est un véritable drame, nous en parlons avec mes invités dans quelques minutes.
Après le flash de 20h, à tout de suite, Jacques.